la première page, je fais connaissance avec des personnages. Je m'embarque avec eux dans de drôles d'aventures, passé, présent et parfois même futur. Un livre, ça délivre, ça détend et ça rend ivre. Plongé dans un bouquin, ça change et ça fait du bien. Fini les galères, fini les misères. J'oublie mes soucis, j'oublie même qui je suis. Et d'un seul coup.
Bonjour. Eh bien, des livres, oui, des livres avec l'Oiseau des Lires. Nous sommes là pour vous aider cette année encore à choisir vos lectures. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un auteur dont je suis la production, dont je suis les livres, la production, j'aime pas trop le terme en vérité, depuis Les Larmes de l'Assassin, dont je vous parlerai ensuite, Anne-Laure Bondou. Anne-Laure Bondou qui a son prochain livre qui arrivera le 25 septembre et j'ai eu la chance d'avoir les épreuves avant et de pouvoir le lire. Ce livre s'appelle « Tant que nous sommes vivants » et il paraîtra chez Gallimard Jeunesse. L'histoire se situe dans un pays, dans une ville où il ne reste plus qu'une usine d'armement, où tout est mort autour dans le pays, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, une vie un petit peu en dehors du monde. Qui, je l'espère, ne nous arrivera pas. Dans ce pays, dans cette ville, il n'y a plus de joie, plus d'amour, plus de... On passe son temps à travailler, une équipe de nuit, une équipe de jour, on se croise à peine, on travaille. Et un jour arrive dans cette usine où travaille Ama, Beau. Ils se croisent, elle quitte son travail de nuit, lui arrive pour le travail de jour, il vient d'un pays où il y a habituellement des forgerons et ils se croisent et ils s'aiment. Ils vont vivre dans ce pays où l'amour n'a plus lieu d'être, un grand amour. Et puis un jour, tout bascule. Un jour où en plus Beau n'est pas allé travailler parce que Ama travaillait la nuit et la nuit il s'ennuyait, il allait au cabaret, il oubliait Ama en buvant. Et un matin, il ne s'est pas réveillé. Et ce matin-là, l'usine a explosé. Il y a eu des morts, beaucoup de morts. Il y a eu des blessés. Et Ama, dans cette explosion, a perdu ses mains. Tout est à reconstruire dans la ville. Il n'y a plus d'usine, il n'y a plus de travail. Bien sûr, les gens s'interrogent. Que venait faire Beau dans cette ville? Pourquoi, depuis qu'il est là, tout a basculé et on refit l'histoire, point par point, avec une excitation grandissante. C'était mieux que d'emboîter les pièces d'un puzzle. Il y avait d'abord eu le coup de foudre entre Beau et Ama. Cette histoire d'amour ne s'accordait pas avec la dureté des temps. Elle nous avait ramolli la couenne. Puis il y avait eu la réouverture du castor blagueur, les tours de magie, les danseuses, les chansons, toutes ces fantaisies qui nous avaient distraits de l'essentiel. Et enfin cet hiver interminable, ce froid intense, cette neige inhabituelle et les crises prophétiques de Melchior. D'ailleurs, Beau n'était-il pas le dernier à l'avoir vu? Finalement, on était tranquille jusqu'au jour où il est arrivé à l'usine, résuma un des joueurs de cartes. « J'ai rien contre Beau », affirma le patron du café. « Mais il faut reconnaître que depuis qu'il est là, plus rien ne se passe normalement. » Le plus étrange, c'est qu'il n'était pas à son poste au moment de l'explosion, reprit le joueur de cartes. « Je ne dis pas qu'il l'a fait exprès, mais... » Les habitués restèrent songeurs. « On ne sait rien de lui, dans le fond, » fit observer un lanceur de fléchettes. « On sait seulement qu'il vient du Nord. »« Ils sont tous arriérés là-bas, » commenta un autre. « Des nomades, des guérisseurs, et je ne sais quoi encore, comme fumistes. »« Beau a peut-être le mauvais œil, » lança le patron. Ces mots firent peser un lourd silence sur la salle. Depuis tant d'années que nous assistions à notre déclin, nous étions prêts à croire n'importe quoi pour expliquer les causes de nos malheurs. Et surtout, il nous fallait une tête à qui faire porter le chapeau. Nous venions de la trouver. C'est ainsi que Beau et Ama vont être chassés. Ils vont partir, alors qu'Ama attend un bébé. Ils vont partir dans la nature, dans une nature assez hostile. Il fait froid, ils ont du mal à vivre, du mal à se nourrir. Et Ama va finir par mettre au monde Tsel, sa fille. Et c'est ce jour-là qu'apparaît un personnage un peu hors du commun, un personnage qui s'appelle Douze. Ses frères et sœurs portent tous des noms pas des noms d'ailleurs, il s'appelle 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 16, je crois. Et ce personnage a un teint de bizarre, il est tout petit, mais il est très, très accueillant. Et il va emmener Beau et Ama dans leur antre, puisqu'ils vivent dans des grottes, les unes au-dessus des autres, où ils ont construit une vie à part du monde, ce monde qui est si peu accueillant à ce moment-là. Ama va apprendre à s'occuper de Tsel, ils vont se reconstruire, réapprendre à vivre, continuer à s'aimer, mais Ama a besoin de nature, de verdure, et un jour elle va avoir envie de partir, de repartir vers le monde. Et ils vont emmener Tsel qui vont d'abord protéger, parce qu'un jour où Ama a eu envie de descendre dans l'antre où Beau a repris son travail de forgeron, elle descend et elle trouve Beau en train de travailler, et Deux va lui garder sa petite. Et tandis que la laine de la forge saturait ses poumons de particules métalliques, le bruit et la chaleur enveloppèrent son corps d'un halo familier. Elle s'arrêta pour fermer les yeux un bref instant. Elle se crut de retour à l'usine, chez elle. Quand Beau remarqua sa présence, il tressaillit. Derrière les verres teintés de ses lunettes, Ama lui apparaissait en négatif, nimbée d'éclats rougeoyants, belle et triste, pareille à une étoile morte. Cette vision lui coupa le souffle. Il lâcha ses outils et la chaîne du soufflet. Ma mère fit encore quelques pas et s'arrêta près de lui. « Me pardonnera-t-elle jamais ?» se demanda Beau. Et lentement, comme en réponse à la question qu'il n'avait pas posée, elle lui ouvrit ses bras. J'ignore combien de temps mes parents restèrent enlacés, cœur battant dans cette chaleur infernale. Ce que je sais, c'est qu'au moment où ils se retournèrent vers le fauteuil, deux étaient en train de jouer avec moi. Le vieux forgeron m'avait soulevé dans ses bras, encore costaud, et me faisait voler autour de lui en riant. Son ombre projetée sur les parois de la forge était démesurément agrandie. Et au bout de ses bras, la mienne l'était aussi. Sauf que cette ombre n'était pas celle d'un bébé. Sur le mur de la forge, on aurait dit que deux jouaient avec un animal. J'avais une queue, des pattes, des oreilles pointues. Ama poussa un cri. Mon ombre était celle d'un chiot. « Par tous les saints !» murmura deux en réalisant ce qui se passait. Dans un même élan, Beau et Ama se précipitèrent vers lui et m'arrachèrent à ses bras. Ce qu'ils venaient de voir n'avait pas de nom, pas d'explication ni de cause naturelle. Ils me gardèrent serré entre eux à l'abri de la lumière, espérant avoir fait un mauvais rêve. Mais quand mon père me souleva de nouveau en l'air, le cauchemar recommença. L'ombre qui cette fois se dessina à la place de la mienne sur le mur fut celle d'un oiseau de nuit. Un hibou, une chouette. Et chaque fois que mon père répéta l'expérience, sous les yeux effarés de ma mère et du vieux forgeron, mon ombre prit une forme différente, celle d'un lièvre, d'un cygne, d'un crocodile. Entre les mains de Beau, je demeurais un bébé, souriant que j'étais, et pourtant, la silhouette découpée sur le mur n'avait pas une apparence humaine, comme si j'avais été, moi, seul, un zoo, une ménagerie entière. Une ménagerie charmante, changeante, semblable à celle qu'inventait la mère de Beau avec ses mains quand il était petit, et dont il peuplait sa solitude les nuits où Ama travaillait à l'usine. C'est ainsi qu'il découvre que Tsel a chaque fois une ombre différente, une ombre qui peut faire peur, une ombre qui peut faire sourire, et Beau va essayer de trouver une solution pour que Tsel ne souffre pas de cette anomalie qui peut parfois aussi, qui plus tard lui rendra aussi service. Ils vont donc partir, quitter cet antre où ils ont été accueillis et se retrouver sur une île assez paradisiaque où ils vont vivre leur amour jusqu'à l'adolescence de Tsel. Et puis un jour, sur les rives de cette île, apparaît un bateau qui apporte la guerre et la séparation de Beau et d'Ama. Heureusement, Tsel va trouver son amour, Vig, et ils repartiront tous les deux et referont à l'envers le chemin de Beau et d'Ama. Et Tsel y retrouvera ses racines. Donc ça, c'est superbe. C'est le dernier roman, un roman que l'on commence, que l'on ne lâche pas, d'Anne-Laure Bondou. Et j'avais découvert le plaisir de lire Anne-Laure Bondou avec Les larmes de l'assassin. Il ne me reste plus beaucoup de temps, ce qui est assez une catastrophe. Les larmes de l'assassin, alors je vais vous parler des larmes de l'assassin, peut-être que vous lire quelque chose. Ça se passe au Chili, dans un endroit de la Terre, désert, où vit une famille. Une famille où on vit au jour le jour, où on ne connaît pas la joie, on ne connaît pas l'amour. Et il y a un petit garçon qui vit là, un enfant qui vit au jour le jour, je vais vous en reparler après. Et dans ce lieu arrive un homme, Angel qui a comme seule solution, lorsqu'il veut quelque chose, de tuer les personnes qui s'opposent à sa possession. Il arrive là, il fuit et il veut ce lieu. Et il va tuer les deux parents. Et Paolo, qui est le petit héros, qui était lui parti chercher de l'eau, échappe à cette tuerie dans l'instant. Et lorsqu'il revient avec sa cruche ébréchée, Angel le regarde et il se dit « J'ai jamais tué d'enfant ». Et là, avec son grand couteau, il hésite. Et il va laisser la vie sauve à Paolo et vivre avec lui dans cette maison où il a tué ses parents. Alors quand on raconte ça, on se dit « Mais c'est une horreur ce roman ». Mais non, ce n'est pas une horreur. C'est un roman qui nous emporte parce qu'au fil du récit, Angel va devenir un autre homme. Il va accompagner Paolo. Il y a aussi un autre homme qui va arriver dans ce pays, cet endroit désert. Lui, qui est un lettré, qui vient se mettre à l'abri et qui va prendre lui aussi sous sa protection Paolo et lui apprendre à lire, lui apprendre une certaine culture, ce que ne peut pas lui apporter Angel. Et au fil du récit, Angel va devenir un autre homme. C'est une renaissance, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Paolo va grandir, Angel va changer, Luis va les accompagner et l'homme qui à la fin sera attrapé, condamné, Angel sera devenu un autre homme. C'est une vraie transformation. Au fil du récit, ils vont rencontrer, parce qu'ils vont, ils vont partir vers la ville pour acheter des chèvres, pour avoir de quoi vivre, parce que sur place, ils n'ont vraiment pas grand-chose. Ils rencontreront des gens qui vont les changer, les faire évoluer. Je vais vous lire juste un petit passage et on terminera là-dessus. Ils rencontrent un homme dans une forêt, Ricardo. La voix de Ricardo Morga réchauffait et apaisait. Il parlait avec la douceur de ceux qui n'ont plus rien à prouver et chacune de ses paroles semblait recéler un secret. « J'aime les métamorphoses », soupirait-il, en faisant tourner le vin dans son verre. « Le bois qui devient livre, l'hiver qui devient printemps, le raisin qui devient vin. » Il se tourna vers Paolo. « Et l'enfant qui devient homme », dit-il en hochant la tête. Paolo, à la limite du sommeil, laissa échapper un soupir. « C'est vrai, j'ai traversé la forêt. Je n'ai plus peur maintenant. » Il y a des métamorphoses très discrètes, poursuivit le vieux bûcheron. Celles qui se passent dans notre âme, par exemple, qui ne sont pas toujours visibles. Angel remua dans son fauteuil, soudain mal à l'aise. Voulez-vous dire, commença-t-il intimidé, voulez-vous dire que les hommes aussi peuvent changer de nature? Je le crois, répondit Ricardo. Et vous? Je ne sais pas, murmura Angel. Ricardo se leva et alla ouvrir un tiroir en bas de sa bibliothèque. Il en sortit une boîte minuscule dont il fit sauter le couvercle avec ses pouces. Sans dire un mot, il roula une cigarette avec les brins de tabac qui se trouvaient dedans. « La forêt produit des millions de variétés de plantes, » dit-il en se penchant vers la flamme d'une bougie. « Nous ne savons presque rien de la forêt. » Il souffla par les narines une fumée dense, bleutée, très odorante. « J'ai transformé une de ces plantes en un tabac particulier. C'est une des métamorphoses possibles. » Un des mystères qui nous entoure. Et j'ai aimé ce passage, j'ai eu envie de vous le faire partager parce que dans tous les romans d'Anne-Laure Bondou, c'est cette métamorphose des êtres qui apparaît. Les gens peuvent changer, évoluer, se transformer. Et comme le temps se termine, je vais simplement vous citer, tant pis, Les deux autres romans dont je voulais vous parler, Pépite, toujours d'Anne-Laure Mondiou, et Le Temps des Miracles. Le Temps des Miracles et Les Larmes de l'Assassin ont eu tant leur temps, c'est le cas de dire, le prix des dévoreurs de livres. Bonne lecture. Et n'oubliez pas, les livres s'empruntent en bibliothèque et s'achètent en librairie. Au revoir et à dans 15 jours.
Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu découvres, ça paraît infini pour un truc si petit. Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu découvres, ça paraît infini pour un truc si petit.